journal
avec MCM,
présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, on commence par les titres de l'actualité que vous allez développer aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Jamais 203, le recours d'Edouard Fritsch contestant la capacité de Gaston Floss à être président du Tahoer A a de nouveau été renvoyé au 12 octobre ce matin. Une nouvelle fois, c'est la défense de Gaston Floss qui a demandé un délai pour répondre aux conclusions de l'avocat d'Edouard Fritsch. L'information du jour sur Radio 1, c'est la situation toujours très tendue à la clinique Paofei. Un peu moins de 2 ans après la reprise de l'établissement par un collectif de médecins, les finances sont dans le rouge et les salariés craignent pour leurs acquis sociaux. Vous entendrez le porte-parole du collectif des médecins, actionnaires de la clinique, dans ce journal. Enfin, nous parlerons de la fête de la Lune dans cette édition. C'était ce week-end, une fête célébrée par la communauté chinoise à Tahiti. Nous reviendrons sur l'histoire et les légendes autour de cet événement dans ce journal. À tout de suite.
On démarre avec ce nouveau renvoi dans l'affaire qui oppose Gaston Floss et Edouard Fritsch.
Jamais 203, le référé d'Edouard Fritsch demandant de constater l'incapacité de Gaston Floss à présider le Tahoer A a été renvoyé ce matin. Un renvoi au 12 octobre prochain, une nouvelle fois à la demande de la défense de Gaston Floss. L'avocat du Vieux Lyon, maître Vincent Dubois, a demandé à répondre aux dernières conclusions déposées par le conseil d'Edouard Fritsch, maître Raoul Oreille. Maître Dubois s'est étonné du maintien du référé, alors même qu'Edouard Fritsch avait annoncé vouloir retirer cette procédure pour garder uniquement la requête sur le fond. Et on l'écoute, maître Vincent Dubois, au micro de Vaïté Ourel-Ipambrin.
Ce qui est étonnant, monsieur Edouard Fritsch vous a indiqué qu'il allait se désister de son référé, puis finalement on constate aujourd'hui que ce référé est maintenu. Donc contrairement à ce qui est dit, l'inéligibilité qui peut être prononcée par une instance pénale, de même que la perte des droits civils, n'interdit aucunement à un individu d'être membre d'une association et ni de la diriger. La jurisprudence, la doctrine sont extrêmement claires à cet égard. Je suis extrêmement confiant puisque la loi, la jurisprudence et la doctrine me donnent raison.
Qu'est-ce qu'il a écrit dans
C'est toujours a priori les mêmes arguments. Ça tourne autour du fait que M. Gaston Floss n'aurait pas la capacité juridique pour diriger l'association de Tahoer A, ce qui, encore une fois, est faux juridiquement. Donc à partir de là, dès lors que ce point-là ne pose aucune difficulté, l'ensemble de la requête, il n'y a même plus besoin de la lire. Ce n'est pas parce qu'on a une perte des droits civiques, ce n'est pas parce qu'on a une inéligibilité prononcée par une instance pénale qu'on ne peut pas diriger une association. Sauf si les statuts de l'association eux-mêmes prévoient cette disposition. Après, une association, elle est libre de modifier ses statuts en fonction de ce qu'elle a envie d'y mettre.
Et de son côté, maître Oreille estime que le caractère d'urgence de la procédure en référé a toujours son intérêt. Il considère toujours que le leader Orange ne peut plus diriger son parti puisqu'il ne peut exercer les prérogatives qui lui sont dues, comme par exemple celle d'ester en justice. L'avocat compare Gaston Floss au capitaine Blight qui a vu des mutinés partout autour de lui. Il y a pourtant bien une nouveauté dans cette affaire puisque selon maître Oreille, Marcel Touyani a tenté de faire tomber la procédure. Au titre de ses fonctions de nouveau président délégué du Tahoer A, le président de l'Assemblée s'est désisté du recours intenté par son prédécesseur Edouard Fritsch.
J'ai apporté des conclusions en faisant valoir que la loi de 1988 dit que le parti peut ester en justice. Or, la condamnation à la privation des droits civiques, civils et de famille, selon la définition du code pénal, interdit de représenter une personne en justice. La loi de 1988 dit que le parti peut ester en justice. Le parti est représenté par qui? Par son président, par personne d'autre. Donc comment peut-il rester président alors qu'il ne peut pas exercer des prérogatives? Si vous voulez, pour faire un peu d'humour, je dirais que Gaston Floss fait penser au capitaine Bly qui a vu des mutinés partout. Et malheureusement, avec ce comportement un peu paranoïaque, le Tahoer A devient un bateau ivre, en fait. Et donc, c'est pour ça que la justice a encore un rôle à jouer. Alors bon, Marcel Giovanni a présenté des conclusions de désistement. Comme il est le nouveau président délégué, il dit « Edouard Fritsch a fait ça en tant que président délégué. Je suis le nouveau président délégué, donc je me désiste. » Mais en fait, c'est pas si simple. Si l'exclusion d'Edouard Fritsch n'est pas définitive, la nomination de Marcel Giovanni ne l'est pas non plus. Ça doit être validé par le Congrès. La sanction contre les membres dirigeants doit être prononcée par le Grand Conseil, doit être validée par le Congrès. Qu'est-ce que c'est ces dispositions statutaires qui disent « c'est exécutoire, mais ça doit être validé ». Même le tribunal ne le fait pas.
On poursuit avec cette information Radio 1. La clinique Paofei ne redresse pas la barre.
En février 2014, le tribunal de commerce avait accepté de livrer l'avenir de la clinique Paofei à un collectif de 18 médecins. 20 mois plus tard, la clinique est loin d'être sortie d'affaires. Elle ne réalise pas de bénéfices et les comptes ne sont toujours pas équilibrés. Le renouvellement du matériel doit notamment être financé sur les fonds propres des actionnaires. Mais pour le tauté Cyril Serra, président des actionnaires, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le retour à l'équilibre financier n'était pas prévu avant 2016. Écoutez-le au micro de Tamara Sentis.
Comme toute société qui sort d'un redressement judiciaire, on a fait le choix en première année d'afficher un bilan qui prenne la totalité des immobilisations exceptionnelles, tout ce qui est les provisions de congés payés, ce genre de choses, en sachant que par le simple fait mécanique qu'elles sont exceptionnelles et qu'elles donc elles n'ont pas vocation à se renouveler l'année d'après, on va mécaniquement afficher une amélioration dès la deuxième année d'exploitation qui sont importantes et salutaires. Voilà, on est équilibré. C'est pas une société qui fait aujourd'hui des bénéfices. On l'attendait pas, on a pris en redressement judiciaire une société qui perdait plus de 100 millions par an de façon très régulière. D'ailleurs, le plan de reprise qu'on a proposé auprès du tribunal n'envisageait pas un retour à l'équilibre financier en 2016, ce qui est toujours notre objectif.
L'année dernière, un an après la reprise, les médecins s'étaient félicités de l'augmentation de 16% de l'activité de la clinique. Une fausse bonne nouvelle pourtant, puisque l'établissement perçoit une dotation fixe de la CPS de l'ordre de 1,3 milliard de francs, et ce quel que soit le nombre d'interventions pratiquées. Augmenter l'activité de la clinique signifie donc augmenter les frais de fonctionnement et par conséquent amaigrir les réserves financières. Mais pour le président des actionnaires, cette augmentation de l'activité n'était pas un choix des gestionnaires, c'est une réponse à la demande.
Le problème, c'est qu'on n'a pas décidé d'augmenter de façon très importante notre activité. Ça se fait parce qu'il y a une demande de santé en Polynésie, il y a un vieillissement de la population. Ipso facto, ça crée plus de gens avec des problèmes d'hypertension, plus de gens avec des problèmes de diabète, plus de prothèses de hanches parce que les gens vivent plus vieux, plus de prothèses de genoux parce que les gens vivent plus vieux. Ça crée une augmentation d'activité. Elle n'est pas voulue, elle est nécessaire parce qu'elle répond aux besoins de la santé des Polynésiens, mais elle n'est pas vraiment voulue.
Mais vous êtes du privé, vous pouvez réorienter ces personnes vers le public et décider de faire moins d'interventions.
Non, il n'y a personne qui est capable de prendre en charge la chirurgie de l'obésité dans le public. Les chirurgiens orthopédistes de Cardella a décidé de nous rejoindre, c'est encore une augmentation d'activité. On ne peut pas non plus dire aux gens, non, on ne va pas vous opérer.
Et sur le plan financier, toujours, les salariés et les représentants syndicaux dénoncent aujourd'hui la baisse de la redevance pratiquée par les médecins. Il s'agit du pourcentage des honoraires que chaque médecin reverse à la clinique pour l'occupation des lieux. Une redevance qui est passée de 15 à 9% l'année dernière. Aujourd'hui, cette redevance a retrouvé son niveau d'antan. Sur le plan social, enfin, en juin dernier, une première réunion avait eu lieu entre le commissaire aux comptes et les actionnaires de la clinique. Une seconde rencontre est prévue dans le courant du mois d'octobre. Cyril Serra, le représentant des actionnaires, se réfugie d'ailleurs derrière cette rencontre avec le commissaire aux comptes pour évoquer un éventuel gel du 13e mois des salariés.
Toute dépense d'une entreprise qui ne fait pas des bénéfices redondants est quelque chose qui doit être jugé à la mesure de la possibilité. Le directeur financier fait une proposition, il dit voilà, on propose de faire ça. Si le commissaire aux comptes dit non, ça c'est pas viable, c'est pas suffisant, on est obligé de faire des efforts supplémentaires. Alors les efforts supplémentaires, ils ont plein de formes, il y a des formes qu'on peut faire. Demander aux actionnaires de faire un apport financier, retarder un investissement de rénovation, de choses comme ça, demander aux salariés de participer à cet effort au travers d'une suspension pour un an du 13e mois, c'est des possibilités. C'est pas nous qui décidons de ça.
Et aujourd'hui, les 189 salariés de la clinique Paofei ne sont pas très sereins pour leur avenir. Ils sont inquiets, affirme Gérard Coulon, le délégué syndical à Tiaimoa au sein de la clinique. Selon lui, la première des préoccupations reste le paiement du 13e mois, un sujet sensible qui était déjà à l'origine du dépôt de bilan de 2014. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau problème pour la rentabilité de la clinique. Le plan de reprise des médecins prévoyait des investissements de l'ordre de 800 millions de francs étalés sur 3 ans. Seulement voilà, le futur schéma d'organisation sanitaire de la Polynésie est venu chambouler les plans des médecins, puisque le document suggère la création d'un pôle unique de santé privée. Les médecins attendent donc d'avoir la certitude d'occuper les locaux de la clinique dans les années à venir avant de démarrer des travaux. Écoutez.
On n'a pas pour l'instant le vœu d'investir avant de savoir ce que va devenir l'établissement et quelles sont les orientations que souhaite prendre le gouvernement au travers de la politique de santé de la Polynésie. On est suspendu à ça parce que si le STOS définit l'exigence d'un pôle de santé privé unique auquel on est très favorable et sur lequel on travaille, il est évident que ça nécessite peut-être de réorienter ces investissements ou en tout cas de les distribuer de façon différente.
Il est midi 10, nous allons marquer une courte pause dans ce journal. Développement du reste de l'actualité avec Antoine Samoyau dans quelques secondes.
Premier sur l'info.
On reprend ce journal avec le rassemblement poignant hier après-midi en hommage aux victimes de Hitimahana.
40 jours après la noyade des trois jeunes enfants aux abords de la plage de Hitimahana à Mahina, les familles endeuillées, leurs proches et les riverains se sont rassemblés sur les lieux du drame hier pour rendre un dernier hommage aux victimes. Le nouveau Tavana de Mahina, Damas Teuira, a profité de l'occasion pour annoncer que la commune réfléchissait à l'adoption de nouvelles mesures de sécurité. Beaucoup d'annonces une nouvelle fois, mais peu de concret tout de même. La surveillance des plages ne peut pas être mise en place dans l'immédiat, faute de moyens. La modification de la réglementation des activités nautiques n'est qu'envisagée. Heureusement, le maire annonce tout de même des formations d'apprentissage au premier secours, mais à partir du mois prochain. On l'écoute au micro de Tamara Sentis.
Nous avons réfléchi à éventuellement étendre un peu la surveillance des plages sur le secteur de Hitimahana et notamment à Hong, parce que ça aussi c'est notre problématique qui nous attend, avec notamment les écoles de surf qui viennent s'adonner à leur pratique quotidienne sur le littoral de Hono, les baigneurs, les paddleboards. Tout ça, il va falloir réglementer, en tout cas encadrer. On est en train de réfléchir comment la commune de Mahina peut intervenir en multipliant peut-être ses effectifs. Aujourd'hui, nous avons des contraintes budgétaires et dans l'immédiat, nous n'avons pas la possibilité d'intervenir directement aujourd'hui. Mais on est en train de voir peut-être pour l'année prochaine, et ceci, il va falloir qu'on dégage des crédits pour assurer la surveillance de ces plages-là. Hitimahana, aujourd'hui, n'est pas propice à la baignade, du côté sanitaire, dangerosité, infection, bactéries. Mais nous ne pouvons pas empêcher les habitants d'Hitimahana de se baigner. Et aujourd'hui, vu le taux de fréquentation de cette plage-là, dégager une équipe de surveillance quotidienne, peut-être le week-end sur Hitimahana, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse.
Enfin, sachez que la mairie veut que des employés communaux rendent visite aux habitants de la commune pour les sensibiliser aux risques de la mer et aux accidents domestiques.
On parle culture et tradition à présent avec la fête de la lune qui a été célébrée ce week-end, notamment par la communauté chinoise.
Dans la nuit, de samedi à dimanche, la communauté chinoise a célébré la fête de la lune, l'une des célébrations les plus importantes de la tradition chinoise. Elle tombe chaque année le 8e jour du 15e mois lunaire et elle est évocatrice de nombreuses légendes pour le peuple chinois. Alors il faut bien savoir que le peuple chinois se réfère essentiellement au calendrier lunaire pour établir les différents cycles de l'année et durant la nuit de la fête de la lune, le satellite est plus gros et plus brillant que le reste de l'année. Vous vous en êtes peut-être rendu compte ce week-end. Les Chinois y voient un symbole de prospérité, d'amour, de paix et de réunion familiale. Les familles chinoises se réunissent donc autour d'un dîner composé de fruits et de gâteaux lune. Elles allument trois bâtons d'encens et elles invitent la lune à venir partager avec elles ses douceurs. Écoutez Rose Jonc, la présidente de l'association chinoise Sinitong. Elle était la première à avoir fait des provisions de gâteaux lune pour l'occasion.
On rend hommage à la lune. Et les familles se réunissent justement pour célébrer, pour être unies justement autour d'une table, d'une bonne table. Moi, tous les ans, je réunis toute ma famille, les enfants, les petits-enfants. On mange ensemble. Et puis après, quand la lune est apparue, eh ben, on lui rend hommage. Sur une petite table, on met les gâteaux de lune et puis avec les bâtonnets d'encens, on invite la lune à venir manger les gâteaux de lune avec nous.
Et au fil des années, les légendes autour de la fête de la Lune se sont multipliées. La plus connue, c'est celle de la déesse de la Lune. Elle raconte l'histoire d'une princesse envoyée sur la Lune par punition et qui redescend sur Terre chaque année à l'occasion de cette fête. Une autre histoire plus contemporaine raconte que c'est le jour de la fête de la Lune que les Chinois sont parvenus au 4e siècle à se défaire de l'invasion mongole.
En l'an 316, la Chine était occupée par les Mongols. Chaque famille était obligée de loger un Mongol et nourrir un Mongol. Et toutes les réunions politiques sont censurées, quoi. Hein, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et pour se révolter, justement, contre cet état de servitude, alors ils ont eu l'idée, ce soir de la fête de la Lune, d'insérer un trac dans le gâteau de Lune pour dire, par exemple, à minuit, dans chaque famille, on doit décapiter le Mongol qui est devant la maison. Alors, ils ont mis le trac dans le gâteau de lune et les gâteaux ont été distribués dans chaque maison. Et à l'heure convenue, eh bien, chaque Mongol qui gardait la maison devant la porte a été tué, a été décapité. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont pu se libérer des Mongols.
On reste sur la culture pour terminer, mais cette fois-ci avec le FIFO qui s'est exporté ce week-end à Paris.
Le Festival international du film documentaire océanien, le FIFO, organisait ce week-end à Paris son événement hors les murs. Deux jours de projection avec des stands sur le Monoï ou encore le tatouage traditionnel. La ministre des Outre-mer, Georges Pollangevin, avait même fait le déplacement. Elle a pu assister à une prestation du groupe de danse Otaïtinoï d'un morceau de ukulélé ou encore un haka du du 15e bataillon du Pacifique. Un programme donc très complet qui a été proposé au public parisien pendant 2 jours. Je vous rappelle que l'édition 2016 du FIFO, ce sera en février prochain. 12h15.